Bien le bonjour dans l'hebdo des lycéens. C'est tous les vendredis entre 12h30 et 13h, l'occasion de retrouver une synthèse de l'actualité vue par les lycéens du lycée Paul Scarron, Ciel Guillaume, les terminales. Ces terminales qui choisissent dans l'actualité pas forcément ce que les grands médias ont pu choisir d'évoquer pendant toute cette semaine, à force de journaux télévisés, de une de presse écrite ou de flash d'informations. Vous le verrez, c'est pas forcément ce qui fait la une ailleurs, qui fait la une ici. Aujourd'hui, le choix est un peu particulier puisque nous avons Lise, nous avons Pierre, nous avons Stéphanie, Audrey, Antoine et Flora qui nous rejoint ici en observatrice, qui va bientôt rejoindre notre équipe. Flora qu'on retrouvera d'ailleurs au début du mois de mars, puisqu'elle viendra répondre à des questions de ses camarades en compagnie d'autres réunionnais sur la réunion. Le rendez-vous, on peut déjà le prendre, ce sera pour le 2 mars, voilà, le vendredi 2 mars, si on ne se trompe pas. En tout cas, sur l'actualité de cette semaine, on peut le dire, il n'a pas fait super chaud. Les circulations ont été un petit peu compliquées du côté de Ciel Guillaume et de son massif. Que on peut aussi considérer que ça a été un immense désert dans cet établissement scolaire pendant toute cette semaine, et qu'on est content au dernier moment d'avoir rattrapé, d'avoir pu mettre sur le fil à linge avec quelques épingles 5 lycéens de cette terminale L pour faire cet hebdo. On a eu chaud, hein, l'hebdo, on aurait pu être 1, 2, pour faire des débats, vous imaginez la catastrophe. Allez, donc on va démarrer tout de suite sur cette actualité. C'est Lise qui va démarrer. Lise, on a fait une découverte extraordinaire, paraît-il.
Oui, au pôle sud. Dimanche, grâce à un forage de près de 4 km de profondeur près du pôle sud magnétique, des chercheurs russes ont récemment atteint le lac Vostok. Une découverte sans précédent qui ouvre de nouvelles perspectives de recherche. Les Russes ont découvert ce lac en menant des recherches au pôle sud depuis 1989. Il se situe à 3768 mètres sous leurs pieds.
C'est vrai que si on avait vu un mètre en moins, ça nous aurait manqué en info. Hein. On aurait 4000 mètres en gros, quoi.
Oui, voilà, mais c'est ça. Les explorateurs ont dû creuser un forage d'une profondeur inédite, une prouesse technique dans cet environnement polaire où les conditions de travail sont rudes. Cette gigantesque nappe souterraine de 250 km sur 50 km pourrait regorger de richesses écologiques exceptionnelles. Jean-Robert Petit, directeur de recherche au CNRS du laboratoire de glaciologie et géophysique de Grenoble, explique que ce lac est isolé depuis des millions d'années. Son exploration permettra sans doute de découvrir des espèces rares et un écosystème unique. Toutefois, certains chercheurs pensent que creuser ce forage a nécessité l'utilisation de kérosène qui risque de provoquer des pollutions. Sur ce continent protégé, les conséquences pourraient être dramatiques. En outre, les scientifiques sont impatients de savoir s'il existe des bactéries dans ce lac. Si on découvre des bactéries sous environ 4 km de glace, c'est-à-dire un endroit où il fait extrêmement froid, nous pourrions supposer que partout sur les autres planètes comportant de la glace, il y aurait une présence de bactéries. Autrement dit, il y aurait de la vie partout dans l'univers.
Ça fait froid dans le dos, hein.
Oui, oui, c'est le cas de le dire.
C'est pas jeune mot, hein. Non. Alors, cette information est très intéressante. On a découvert qu'il y avait des spécialistes de glaciologie, tout ça.
Oui, je savais pas.
Je savais pas, hein. Formidable. Non, c'est bien d'expliquer tout ça. Qu'il y a un vrai débat, faut-il exploiter ou pas? Faut-il aller voir pollution ou pas?
Oui, il y a une polémique, carrément. Oui.
Alors, c'est quoi ton point de vue? Pourquoi ça te paraît relativement intéressant comme info?
Bah déjà de savoir que faire un forage de 4 km sous la glace, c'est déjà énorme, je
pense. 4 km forêt,
ça fait quand même beaucoup.
C'est énorme, 4
km. J'arrive pas trop à me le représenter.
4 km, on va quand même donner un comparatif. Le Mont Blanc, il fait 4807 mètres quoi.
C'est énorme.
En gros, c'est presque la hauteur du Mont Blanc qu'on a foré quoi, c'est fou.
Ouais. Bon après je suis un peu déçu parce que ils ont un peu caché ça à la planète entière, les Russes, leur entreprise c'était.
Ah c'est pourtant pas l'habitude des Russes hein.
C'est. Ouais, je me dis que c'est vrai que c'est un peu pour redorer leur blason un peu. Enfin ils auraient pu faire ça tous ensemble. Ça se trouve ça aurait été plus rapide les chercheurs de plusieurs pays à la fois.
En plus se pose la question de la propriété hein.
Visiblement il a l'air d'être russe. Enfin,
oui, puisque vous savez que l'Antarctique est divisé en fait en portions entre un certain nombre d'États. Et bon, en tout cas, c'est un espace jusqu'à présent préservé.
Oui, bah oui. Mais c'est pour ça que C'est bien qu'on l'ait découvert, mais il ne faut pas trop l'exploiter non plus. Faudrait
c'est,
pas
un,
le...
c'est un peu comme si on découvrait une nouvelle planète, ça, pratiquement.
Mais surtout que c'est gigantesque, enfin, c'est un lac qui est quand même très grand. C'est ce qu'il disait, il va y avoir un nouvel écosystème, peut-être.
Tu peux rappeler les dimensions, vous avez tout...
250 km sur 50 km.
C'est-à-dire, en gros, c'est la taille de deux de bons départements français.
Oui, bah oui, c'est ça, à peu
tout
près.
De même.
Ouais. Ça fait beaucoup.
Donc c'est déjà important.
Ils vont mettre du temps à l'explorer en entier déjà.
Et ils ont vraiment l'impression qu'ils vont pouvoir découvrir des choses qui vont permettre de faire avancer la connaissance scientifique alors.
Bah oui, parce que déjà quand on voit, j'ai vu l'autre fois des documentaires sur des animaux qui vivent en très profondément dans la mer, ils ont déjà c'est un écosystème déjà totalement différent de ce qu'on connaît. Alors déjà sous 4 km de glace, ça va être encore pire, enfin, on va trouver des trucs totalement...
Ou encore mieux.
Oui, bah c'est ça que je voulais dire. Voilà.
En tout cas, on peut apprendre des choses. Ouais, du point de vue de la recherche, c'est évidemment hyper intéressant. Après, est-ce que j'ai vu qu'il y avait un problème quand même écologique, utilisation de kérosène,
oui,
tout
oui,
ça.
Oui.
Est-ce que
bah ça, c'est
ça te paraît être grave ou...
Oui, pour le moment, bah j'espère qu'ils vont pas trop faire de bêtises. Ce serait dommage de gâcher une si belle découverte.
Mais il faut, voilà, la question c'est toujours pareil, faut-il faire la découverte ou pas?
Oui,
enfin,
bah,
en tout
oui,
cas
oui.
C'est un beau débat, c'est une belle aventure à suivre. Je pense qu'il va y avoir sûrement là-dessus un certain nombre de documentaires qui vont être tournés, qui mériteront d'être vus. C'est effectivement quelque chose d'exceptionnel et je crois que c'était bien de démarrer cet hebdo des lycéens sur Fréquence Sillée avec cette info autour d'un lac découvert par des Russes à l'Antarctique. Dans l'Antarctique. Stéphanie,
oui.
On n'est pas très loin des Russes, on va en Pologne. Mm. Tu nous fais froid dans le dos, mais d'une autre façon peut-être ?
On va voir. Alors, la Pologne a émis son intention de construire ses deux premières centrales qui se situeront au bord de la mer Baltique.
Des centrales nucléaires ?
Oui, des centrales nucléaires. Donc, au nord du pays. Donc, le premier ministre polonais a annoncé que d'ici 2025, deux centrales nucléaires allaient être construites, dont une en service dès 2020. Ces constructions devraient permettre au pays de diminuer sa consommation de charbon, qui représente tout de même plus de 90% de l'électricité en Pologne. Ainsi, le nucléaire leur reviendra moins cher, puisque le ministre de l'économie estime qu'il faudra compter 2 500 € par kilowatt dans une centrale nucléaire, alors que dans une centrale au charbon, le kilowatt s'élève à 4 000 €. Le gouvernement a aussi fait ce choix car il veut diminuer ses importantes émissions de dioxyde de carbone qui entraînent le changement climatique. Donc pour rassurer, le producteur majeur d'électricité en Pologne a déclaré que leur priorité était la sécurité et donc qu'ils allaient construire les centrales en prenant compte les technologies les plus récentes puisque les centrales japonaises endommagées avaient plus de 50 ans. Donc il faut tout de même savoir que la ministre de l'économie polonaise a déclaré que les protestations allemandes ou de quelconque autre pays ne freineront pas la réalisation du programme polonais de l'énergie nucléaire.
Oui, parce que les voisins, ça les inquiète ?
Oui, oui. Bah, surtout, je sais pas si c'est bien judicieux de prendre ce choix maintenant, surtout après ce qui s'est passé avec Fukushima, en fait.
Ceci dit, tu évoques une question importante par rapport à la Pologne, c'est que la plupart des pays de l'Est ont développé des technologies en matière de production énergétique hyper polluantes, hein, des centrales thermiques qui polluent énormément. C'est un peu logique qu'ils aillent vers d'autres formes de production. Toi, tu dis qu'ils choisissent. Pour toi, le nucléaire, c'est un choix du passé, alors ?
C'est pas trop ça. Enfin, aussi, les Polonais, ils ont choisi ça aussi parce que ça coûte moins cher. Et c'est vrai que bon, la Pologne, c'est pas non plus un pays très, très riche.
Ah, quoique, c'est un pays qui monte dans le rang des pays en Europe actuellement, oui.
Oui. Et...
Et donc pas ça pour c'est, hein. C'est
plus, ce serait plus économique pour eux par rapport au charbon, en fait.
Donc bon, c'est un choix. De toute façon, ils ont besoin d'énergie. L'industrie polonaise se développe. Les besoins énergétiques en Pologne sont de plus en plus importants. Donc c'est un peu logique qu'ils cherchent à aller vers de nouvelles formes d'énergie. Le nucléaire est-il un bon choix ? C'est une question que tu soulèves. Et on va en rester à la question. On va pas évidemment aller chercher l'incident diplomatique avec nos amis polonais. Un pays qui fait une aussi bonne vodka ne peut pas être un aussi mauvais pays. Soyons clairs. Bien, allez, on salue nos amis polonais en même temps avec lesquels on a souvent travaillé ici pendant plusieurs années. On n'a pas d'ailleurs fait que travailler. Bien, vous l'avez bien compris. Audrey, justement, tiens, oui, on parle d'Europe, de voyage. Toi, tu veux nous parler de l'apprentissage des langues.
Oui, donc Luc Chatel l'a annoncé mardi. Il veut renforcer la sensibilisation des élèves aux langues étrangères dès la maternelle. Actuellement, en France, cet apprentissage débute en CE1, soit vers 8 ans, comme dans la plupart des pays européens. En Espagne et en Belgique, cet enseignement démarre en revanche dès 3 ans. Alors, est-ce un atout pour les enfants? Donc, les spécialistes de neurosciences affirment que jusqu'à 7 ans, les enfants peuvent parfaitement assimiler les sonorités de systèmes linguistiques différents. Il s'agit d'éveiller les élèves de maternelle par des chants et la récitation de comptines en langue étrangère. Autre objectif, les collégiens pourront apprendre deux langues dès la 6e. Cela ne concernera que 10% des collèges, car cet objectif a un coût important.
Oui, je précise tout de suite que quand on a du mal à s'exprimer en radio, je vais expliquer tout de suite quand même que, je ne sais pas si vous avez remarqué, auditeurs ou auditrices, mais vous êtes peut-être comme beaucoup, vous avez peut-être des petites démangeaisons de ci, de là, hein, les avant-bras qui grattent ou des choses comme ça, et la gorge très sèche. On est sous un temps très très sec, et en ce moment, donc, les corps ne sont pas suffisamment hydratés. D'où toutes ces irritations, démangeaisons, etc. Et la sensation de gorge sèche qu'on a souvent. Et nous, en radio, quand on doit effectivement s'exprimer longtemps, c'est vrai que c'est pas toujours si simple que ça. C'est pour ça que là, il y a quand même. Voilà. Bon, ah, voilà, on explique, c'est le climat, c'est encore un coup du climat, faut le dire. Bon, Audrey, revenons quand même maintenant à nos langues. Tu penses qu'on a encore des progrès à faire en apprentissage des langues? T'inquiète pas, aucun enseignant de langue ne t'écoute. Aucun.
Oui, je pense que maintenant, les langues, c'est important.
Je note ton nom, oui. Oui.
Oui, je pense qu'on doit faire des efforts, parce que je ne trouve pas forcément très...
Est-ce que tu t'es trouvé souvent en situation de dialogue avec d'autres jeunes étrangers?
Non, parce que c'est pas parlé. On sait pas parler bien anglais, par exemple. Donc non, je peux pas. Enfin, on peut pas.
Moi, j'ai souvent vu des jeunes qui partaient à l'étranger ou quand on recevait des jeunes ici, où on n'était pas finalement très à l'aise avec les langues. Et puis petit à petit, les choses avancent. On arrive quand même à se comprendre, à communiquer.
Bah oui, avec des gestes. Mais je veux dire, il y a quand même, je sais pas.
Ouais. Communiquer et parler, c'est pas la même chose.
Ouais,
c'est ça. Si tu fais un geste avec le pouce vers la bouche, ça veut dire que j'ai soif, on comprend. Mais c'est quand même mieux si on le dit gentiment en anglais, bien sûr, ou en allemand, ou dans une autre langue. Ouais. Et puis surtout quand on travaille sur des choses importantes où il faut faire attention aux mots qu'on utilise, sachant que le mot juste est important. Parfois, on peut utiliser des expressions qui vont être comprises comme incorrectes. Mal poli même, je vais dire, par la personne qui l'entend, alors que chez nous, la traduction littérale, c'est une expression tout à fait normale. L'idée, c'est d'apprendre plus jeune.
Oui, d'apprendre plus jeune.
Tu penses que c'est bien?
Bon, oui. Moi, je trouve ça bien. Pourquoi, je sais pas, mais je trouve ça bien.
Est-ce que tu penses que l'histoire de l'apprentissage des langues, c'est quelque chose qui doit se faire de façon ludique, spontanée, un vrai plaisir, ou est-ce que c'est quelque chose qui se passe avec de la grammaire, de la déclinaison?
Je pense qu'on apprend plus facilement quand c'est un jeu. Mmh. Surtout pour les enfants. Enfin, faire de la grammaire à 3 ans, c'est même pas ce que c'est.
Non, mais par contre, apprendre des mots et enchaîner des mots,
ouais.
Oui, c'est possible. Donc cet apprentissage est tout à fait... c'est pas une mauvaise idée, hein, finalement, d'apprendre les langues le plus tôt possible. Si on veut réussir l'Europe, favoriser les échanges, les déplacements de jeunes. Donc on va donner pour une fois, c'est quand même sympa, parce que c'est quand même rare. On va donner un bon point directement sur cette remarque visant le système éducatif. Ok. On part maintenant avec Antoine. Antoine, donc tu nous emmènes au Maroc, et quand on dit Maroc, tout le monde sait de quoi tu vas nous parler.
Alors, le constructeur français Renault et le roi du Maroc ont inauguré hier la toute nouvelle usine à Tanger. Les derniers véhicules low-cost seront fabriqués dans cette usine à 250 000 exemplaires par an. C'est un réel avantage pour Renault concernant les salaires, puisqu'ils seront de 250 euros par mois contre 450 en Roumanie et 1800 en France. Le groupe a investi...
250, 1800.
Oui. Le groupe a investi 600 000 euros et bénéficie de gros avantages fiscaux. Cela va donc permettre de commercialiser le monospace Dacia Logi, à un prix nettement inférieur que ses concurrents aux alentours de 12 000 euros et il sera exporté à 90%. Le nombre de voitures produites en France diminue d'année en année, mais Carlos Ghosn assure que cette délocalisation ne sera pas faite au détriment de la France.
Tu le crois quand Carlos Ghosn dit que ce ne sera pas au détriment de la France ?
Oui et non, parce que l'automobile est en crise quand même en France, donc ça va les toucher. Mais d'un côté, ça va favoriser les différentes structures pour commercialiser le nouveau monospace.
Est-ce qu'on sait si ce véhicule, ce nouveau monospace, cette place, est-ce qu'on sait s'il va être vendu en France ou pas ?
À 90%, il va être exporté majoritairement dans la France.
Et qu'est-ce que vont devenir les Scénic et autres ?
J'ai entendu aux infos aussi un homme qui travaillait dans une usine en France, et justement le Scénic est en chute libre en ce moment, donc ça ne va pas arranger les monospaces français.
En termes de qualité, est-ce que tu penses que le consommateur français va faire confiance à cette fabrication Renault Dacia dans cette usine ultra moderne à Tanger au Maroc ?
Je ne sais pas si la qualité va être là, mais pour se déplacer à moindre coût, je pense que c'est, ça peut être pour les familles. Ça peut être une bonne solution.
Si je te pose la question, c'est parce que il y a une étude qui a été faite il y a pas très longtemps sur la fiabilité des véhicules, et on s'aperçoit que les Dacia, qui sont des véhicules simples, arrivent dans les premières en termes de fiabilité en France, tout simplement parce qu'elles ont moins d'électronique embarquée, et donc étant plus simples, elles tombent moins facilement en panne, et en termes de coût, elles sont finalement bien placées. Quand même rappeler, il me semble que lorsque Dacia avait été, lorsque les Logan avaient été lancés, au départ, il y avait une idée comme quoi elles ne seraient pas vendues en France.
Oui, juste dans le pays.
Sauf que. voilà. Ça, c'est pour cette installation d'usine. Ceci dit, c'est formidable pour le Maroc.
Pour le Maroc, il y a une vraie cité qui s'est construite autour de l'usine et ça favorise. Il y a 6000 emplois de plus, je pense, autour de l'usine.
Et c'est un pays tout à fait intéressant avec lequel on a des liens. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans les extrêmes en disant c'est mieux chez nous que chez eux. Bon, mais il faut essayer de maintenir des bons équilibres. Bon, il semblerait quand même qu'il y aurait des pièces qui seraient encore fabriquées en France.
En France, dont les moteurs ou...
vous remarquerez quand même que ces histoires de transfert de technologie, on les retrouve régulièrement dans cet hebdo. Si je me rappelle bien, la dernière fois, c'était sur le Rafale et les ventes en Inde. Donc il y a un vrai problème, savoir comment vendre nos produits, les fabriquer ici, les fabriquer ailleurs. Enfin voilà. Bon, Pierre. Pierre, toi, tu veux nous parler de la féminisation dans la fonction publique.
Oui, c'est ça. Alors, hier, jeudi 9 février, l'Assemblée nationale a adopté des dispositions visant à instaurer des quotas pour établir la parité dans la haute fonction publique. Les députés comptent atteindre l'objectif de 40% de femmes d'ici 2018, ce qui concernerait 4000 emplois. La députée UMP Marie-Josie Merman, également présidente de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée, a salué ce moment historique et cette avancée extraordinaire selon ses propres mots. Aujourd'hui, les femmes représenteraient 60% des effectifs des fonctionnaires, mais seulement 15% d'entre elles accèdent à des postes à responsabilité. Aussi, pour finir quelques chiffres, on compterait 10 femmes parmi les 190 préfets, 9 femmes sur les 94 présidents d'université. Aucune femme n'a jamais encore été nommée à des ambassades importantes comme la Chine ou les États-Unis.
Ces chiffres-là sont évidemment très très parlants. Pour que l'auditeur comprenne bien, tu nous parles bien de la haute fonction publique.
Oui, c'est ça, les postes à responsabilité.
Est-ce que tu as l'impression que ce problème de parité se pose aussi dans les autres catégories de la fonction publique ? Est-ce que les femmes ne sont pas beaucoup présentes, dans l'éducation, dans le système de tout ce qui tourne autour de la sécurité, dans le système de santé?
Moi j'ai l'impression en tout cas que la plupart, il y a pas mal de fonctionnaires qui sont des femmes. Je parle ici au lycée, il y a plus de la moitié des profs qui sont des femmes.
Et aux fonctions dirigeantes, en général, donc on trouve plutôt des hommes.
Des hommes, oui, plutôt.
Ouais. Et que ça vous inspire quoi, ça, comme réaction? On a trois filles, deux garçons ici. Flora observe pour l'instant, la semaine prochaine, la prochaine fois, elle sera aussi dans le bain avec nous. Lise, tu en penses quoi, toi, de cette...
Lise, tu prends le micro, donc tu prends le micro et tu nous causes, Lise. Oui. Alors, parité obligatoire, les quotas, ça te paraît bien ou pas?
Bah, dans un sens, oui, parce que je pense que dans les hautes responsabilités, il n'y a pas que les hommes qui sont capables de prendre des décisions importantes. Mais en même temps, de là à imposer des quotas, c'est peut-être un peu excessif. Il n'y a peut-être pas non plus énormément de candidatures de femmes. Ça se trouve, elles ne le tentent pas parce qu'il n'y a justement que des hommes. Mais voilà.
Stéphanie, tu as un point de vue sur la question ?
Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que dans un pays où on a les droits de l'homme et du citoyen...
D'ailleurs, l'expression anglaise, c'est « human rights », droits humains, et non pas les droits de l'homme qui, déjà en soi, créent une ambiguïté.
Oui, c'est vrai. Je ne sais plus ce que je voulais dire.
Oui, je suis désolé. Oui, dans un pays, donc, tu disais, qui se présente comme le pays des droits de l'homme.
Il n'y a pas beaucoup d'égalité entre les hommes et les femmes, en fait. Il n'y a pas vraiment de parité.
Par exemple, sur quoi ? Sur quoi tu penses que les femmes sont lésées par rapport aux hommes ?
Eh bien, oui, bah oui, le salaire, comme il dit Audrey.
Audrey, oui, tu penses que les femmes sont lésées quelque part ? Allez, Audrey, à toi le micro.
Non, mais les femmes, elles sont moins bien payées que les hommes, c'est ça que je voulais dire.
Oui, dans beaucoup de métiers, c'est
oui.
Le constat est fait que les femmes sont souvent moins bien payées.
Bah
c'est
oui,
pas valable
oui.
dans la fonction publique, puisque là, c'est standard.
Oui,
mais
oui.
Par contre, dans le privé, oui, c'est souvent, oui. Antoine, toi, tu as un point de vue sur le fait d'imposer des quotas pour dire voilà, il faudra qu'il y ait tant de femmes et tant d'hommes.
Je pense que ça devrait se faire naturellement, puis pas forcément des quotas, mais voilà.
Naturellement, ça devrait ouais. être une évidence.
Ouais.
Ouais. Hein, ce que dans certains partis politiques, on appelle la fermeture éclair. Hein, un homme, une femme, l'idée est simple, la fermeture éclair. Hein, c'est voilà, ça s'emboîte au fur et à mesure comme ça. Donc, et je parle bien de liste. Hein. Oui. Excusez-moi. Oui, Pierre.
Je pense que c'est le fait d'instaurer des quotas en fait qui, ça me dérange un peu en fait parce que, enfin, les femmes, enfin les gens en général, les fonctionnaires devraient être élus pour les capacités qu'ils ont et non pas pour leur sexe. Dire, par exemple,
ils ne sont pas élus, hein, ils sont désignés, les fonctionnaires.
Oui, voilà.
Ouais.
Si on continue sur ce chemin-là. Pourquoi pas décider d'élire un mandat sur deux un président femme et imaginons cette année voilà
ouais. Oui,
si on avait à élire une femme, si on avait le choix entre Marine Le Pen et Christine Boutin, je sais pas ça.
Après il y a les choix politiques, c'est autre chose.
Voilà.
Oui. Donc
il faut élire les fonctionnaires, faut
choisir
les fonctionnaires
voilà.
en fonction de leurs capacités, non pas leur
donc voilà, il faut que les gens soient choisis en fonction des capacités. Ce qui est étonnant, et c'est là-dessus que je vais conclure si vous voulez bien, c'est que quand on regarde les études au niveau des collèges, au niveau des lycées, au niveau des universités, les femmes, les filles sont toujours devant les garçons et largement. Et dès qu'on arrive sur la prolongation d'études ou dès qu'on arrive sur des postes à responsabilité, c'est l'inverse qui se passe. Donc il y a bien un problème de mentalité, soit que les hommes verrouillent, soit que les femmes n'osent pas, vous l'avez dit. Donc quelque part, on se dit, avec des quotas, on va réussir à bloquer tout ça. Mais le mieux, ce serait que ça se fasse naturellement et en bonne intelligence, oui, et uniquement sur la compétence, sans faire la distinction entre hommes et femmes. Oui. On est d'accord là-dessus ?
Oui.
On ferme là-dessus ? Il est largement temps. C'était l'hebdo des lycéens, donc présenté par Stéphanie, Pierre, Lise, Audrey, Antoine, en présence de Flora qui nous rejoindra sur de prochaines éditions. On vous remercie de votre attention et puis on vous retrouve, comme je vous le disais, au début du mois de mars pour une émission du même genre et on vous parlera de la Réunion. Voilà, vous serez tous invités à la Réunion. On vous donnera l'heure, la convocation. Non, je plaisante. La Réunion, ce sera bien Lille. Dont on parlera. Allez, au revoir.
Au revoir.